c'est vrai, une restructuration, c'est difficile pour les salariés, on ne va pas se le cacher quand même. Et puis, on voit bien que les procédures qu'on met en place peuvent être un peu limites juridiquement. Dans une situation où le but, c'est quand même de sauver l'entreprise, alors que les règles ne sont pas toujours les plus adaptées. Donc, le but, c'est quand même d'éviter qu'on s'enlise dans des contentieux avec les salariés. Et pour ça, il y a un point qui est extrêmement important, et ça a été dit, c'est la communication. Je crois qu'une bonne communication, c'est deux choses. C'est d'abord de la transparence, et c'est aussi une communication juridique, pour éviter justement le contentieux. Alors, sur la transparence, il faut qu'on soit très précis avec la représentation du personnel, sur ce qui se passe dans l'entreprise. Je pense qu'il faut être très clair sur le diagnostic, partager avec eux les difficultés, leur expliquer ce qui s'est passé et dans quelle situation on est aujourd'hui, leur expliquer quel est, une fois qu'on a déterminé, quel est le projet pour demain, et leur dire concrètement combien de postes devront être supprimés. C'est ça qui est partie des choses qui les intéressent. Combien de postes seront créés lorsque il y en a qui sont créés, parce que heureusement dans la restructuration, il y a aussi des postes qui sont créés, et quelles indemnités on mettra sur la table, puisque c'est aussi un élément qui les intéresse dans les hypothèses de suppression de postes et de licenciement. Donc une communication importante, ça rassure. Lorsqu'on est en procédure collective, c'est important parce que le point de départ des délais de consultation qui fera que vous pourrez aller vite, c'est le moment où vous avez donné une information exacte et précise. Donc, c'est aussi important pour ce qui est délai. Là, ça, c'est la communication avec les représentants du personnel, mais il ne faut pas oublier, à mon sens, la communication avec les salariés. Hors représentation du personnel, certes. Pas prévu par les textes, et personne ne vous l'impose, enfin, sauf quelques situations particulières, mais globalement, elle est pas prévue. Et là-dessus, pourtant, elle est extrêmement importante, puisque c'est vous, en tant qu'employeur, personne qui reprend l'entreprise, qui pourrait faire passer votre message sans que celui-ci soit déformé. Et là-dessus, il faut rappeler qu'il n'y a pas de monopole des représentants du personnel dans la réception d'informations. Parfois, quand on intervient dans les entreprises, le dirigeant, l'administrateur judiciaire, il est au courant, mais le dirigeant pense qu'il n'a pas le droit de parler aux salariés, il doit parler aux représentants du personnel qui eux transmettront l'information. C'est pas vrai, il n'y a pas de monopole, on a le droit de parler aux salariés en direct. Et puis, non seulement il n'y a pas de monopole, mais il n'y a même pas de primauté de l'information. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'informer vos représentants du personnel en premier. Alors, on n'aura pas non plus attendre trop longtemps. Mais régulièrement, il arrive qu'on fasse une information des salariés, qu'on réunisse les salariés, une heure avant de réunir la représentation du personnel, afin de présenter les choses et d'être maître de la communication. Alors, donc, une communication transparente, je pense que c'est important. Et puis, dans la communication, un peu de juridique. Avec qui je communique d'abord? Est-ce que je choisis de communiquer avec mon délégué syndical, qui est celui avec lequel je vais négocier, avec lequel je peux négocier des accords? Alors c'est un choix à faire. Si je négocie avec lui ce fameux plan de sauvegarde de l'emploi dont je vous parlais tout à l'heure, ma communication à l'égard des autres, à l'égard du CSE, et le contrôle de la Direction régionale du travail seront assouplis. Il n'y aura pas de contrôle de proportionnalité des mesures aux moyens d'entreprise. Alors, il faut avoir le temps de cette négociation, donc ça dépend de la situation de l'entreprise, et puis ça dépend, et ce qui était dit de l'autre côté de la table, ça dépend aussi de la maturité de la représentation du personnel, parce qu'effectivement, certains délégués syndicaux de certains syndicats, et CGT pour ne pas les citer, ne voudront pas de toute façon discuter, ne voudront pas de toute façon négocier, et effectivement, parfois, s'intéresseront très peu au sort des salariés.
C'est pas le pire.
Oui, ça dépend de...
C'est des bon plutôt un artiste, je sais pas,
oui, c'est productif, ça c'est vrai. Et après, il y a l'autre interlocuteur. Alors, l'ennemi syndical, vous pouvez choisir, vous n'êtes pas obligé de l'avoir comme interlocuteur, mais il y a le CSE dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un interlocuteur que vous ne pouvez pas choisir, c'est un interlocuteur qui vous est imposé. Et à toutes les étapes de la procédure, vous devrez le réunir et le consulter. Mais vous devrez même, lorsqu'on est en procédure de redressement et liquidation judiciaire, et d'ailleurs même en sauvegarde en conciliation, mais en tout cas vous avez un texte spécifique en redressement et liquidation judiciaire, vous devrez le réunir en amont, avant même le dépôt au greffe, d'une demande d'ouverture d'une procédure collective. Vous devrez le réunir à toutes les étapes, au moment de la réalisation du bilan économique social, au moment de la réalisation, au moment où vous arrêtez le plan est déterminé sur le projet de plan, tout au long de la procédure, et évidemment à chaque fois que vous envisagez des licenciements. Licenciements qui peuvent intervenir pendant la période d'observation ou qui peuvent intervenir à l'issue de la période d'observation dans le. Et c'est très important parce que ce CSE va désigner des représentants, il va lui-même choisir ses représentants, qui seront des membres du CSE même, et qui seront auditionnés par le tribunal. Donc, c'est une voix qui sera entendue lors des auditions devant le tribunal, généralement le tribunal de commerce. Et donc, sa communication comptera aussi dans l'analyse que fera le tribunal. Donc, c'est vraiment un interlocuteur à ne pas sous-estimer. Le salarié, vous savez, c'est un créancier d'entreprise, mais un créancier un peu particulier, un créancier mieux protégé que les autres, et ce créancier ne va pas lui-même déclarer ses créances. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va aller voir le mandataire ou le liquidateur judiciaire pour déclarer ses créances. C'est les organes de la procédure collective qui, elles-mêmes, vont... déclarer les créances, c'est-à-dire elles-mêmes qui vont regarder les créances salariales qui existent pour les mettre au passif de l'entreprise. Et ce travail qui va être fait par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, il va être contrôlé par le représentant des salariés. Donc il est lui aussi important d'aller auprès de lui pour avoir un état précis des créances salariales, puisqu'il contrôlera. Parce que bon, après, il y a la communication, normalement, c'est le débiteur qui donnera l'ensemble des informations, mais enfin, le travail de définition des créances salariales sera contrôlé par ce salarié. Et pour l'anecdote, et j'en terminerai là-dessus, il y a un élément qui est intéressant. Alors, c'est le code de commerce qui nous dit que le représentant des créanciers, il doit être désigné par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, et à défaut du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, par les salariés eux-mêmes.